Radio Kapi.
En actualité ce soir, c'est le point que nous vous faisons sur la détermination des FRDC dans les collines de Tchanzu et Runyoni face aux rebelles du M23, précisément à Gasiza, Gisiza, Bugusa, Bikenke et Rwambelo, où les affrontements se poursuivent, signale le porte-parole des opérations dans la région. Autre nouvelle d'actualité à la une, c'est la signature pour le traité de l'adhésion de la RDC à la communauté de l'Afrique de l'Est signée par le président Félix Tshisekedi lors d'un sommet extraordinaire à Nairobi. C'est pour une intégration économique, politique, sociale et culturelle plus profonde en vue d'améliorer la qualité de vie des gens de la communauté. En fin de cette édition, professeur Jean-Marie Mwamba, recteur du Philosopha Edith Stein, établissement d'enseignement supérieur privé catholique, va nous parler du vivre ensemble aux prises avec des conflits sociaux, enjeux et perspectives. Il est notre invité, il s'entretient avec Jacques Moukonkole. Mesdames et messieurs, merci de choisir Radio Kapi pour vous informer. Bienvenue et bon après-midi à toutes et à tous. Dans la province du Nord Kivu, la situation est confuse depuis cet après-midi dans la zone des affrontements qui opposent les FRDC au M23, notamment dans les collines de Tchanzu et Runyoni, rapportent plusieurs sources dans le Rutshuru. Après des avancées enregistrées par les FRDC jeudi soir et vendredi matin, ces derniers viennent de connaître une résistance des rebelles du M23 dans la zone. C'est notamment à Gasiza, Gisiza, Bugusa, Bikenke et Rwambeo. Les rebelles seraient actuellement proches de Tchengerero, affirment certaines sources locales. Le porte-parole des opérations indique que les affrontements se poursuivent sans confirmer l'avancée du M23 dans les localités jusqu'ici reconquises par l'armée régulière. Au Nord Kivu toujours, 6 morts et 12 blessés dont 3 grièvement, c'est le bilan encore provisoire d'une explosion supposée survenue dans un bistrot dans le camp militaire Katindo, non loin du parquet militaire dans la commune de Karisimbi. Les premières enquêtes menées sur la scène du crime où le gouverneur de province ainsi que le commandant de la 34e région militaire y sont rendus dans la matinée révèlent qu'il s'agirait d'une bombe artisanale, mais le doute plane encore sur l'auteur présumé du crime. Pour en parler, retrouvons à Goma Gabriel Ouamenia.
Les familles des militaires touchés par ces drames étaient inconsolables dans la matinée de ce vendredi après l'explosion hier soir d'une bombe artisanale supposée qui a fait 6 morts et 12 blessés. L'aiguille de l'explosif ramassée sur les lieux du drame en fond foi ont affirmé quelques officiers des FRDC trouvés sur place. Dans les camps militaires Katindo, on pouvait lire sans désemparer sur les visages des familles des militaires massés sur les lieux du drame la désolation, l'émotion mêlée à la psychose. Selon les sources militaires, parmi les victimes de cette explosion, il y a un officier supérieur des FRDC. Les sources militaires du camp Katindo n'excluent pas un acte terroriste. Ce matin, l'air était au ramassage des restes des corps déchiquetés des victimes, éparpillés par-ci par-là sur les toitures des maisons voisines, au même moment où d'autres militaires s'employaient à rassembler les douilles de l'explosion semblables à des billes et aux particules des métaux. Notons que la police scientifique de la MONUSCO ainsi que l'auditorat militaire des garnisons de Goma diligente actuellement des enquêtes sur les lieux du drame afin de déterminer la nature exacte de l'explosion. Goma, Gabriel Ouamenia, Radio Kapi.
Pour sa part, le gouverneur du Nord Kivu appelle la population à ne pas céder à la panique et la rassure que les enquêtes ont été ouvertes pour déterminer les circonstances et la nature de cette explosion qui a fait des victimes hier soir dans le camp Katindo à Goma. Le lieutenant général Constant Dima Konga dresse un bilan de 6 morts dont 2 officiers, 3 femmes et 1 enfant. Dans une déclaration faite sous les lieux du drame, le gouverneur parle d'un engin explosif improvisé tout en soulignant que les enquêtes de la police scientifique vont en déterminer la nature. Face à toute cette situation, l'Association africaine des défenses des droits de l'homme, AZADO, réagit sur cette explosion qui est intervenue jeudi dernier dans un débit de boisson situé dans le camp militaire du Katindo à Goma. Le président de cette structure appelle les autorités du Nord Kivu à faire preuve de plus de vigilance. Il invite également les autorités à interdire l'ouverture des débits des boissons à des endroits pareils. On écoute Maître Jean-Claude Katende, joint par Jean-François Mouya.
Goma fait
La ville de Goma ainsi que le Nord Kivu tout entier sont en état de siège. C'est une situation qui demande aux policiers, aux soldats, ainsi qu'à tous les services de sécurité d'être prudents. Un débit de boisson ne peut pas se trouver dans un camp militaire. Nous savons qu'un camp militaire ne peut pas être un lieu où on accède n'importe comment. Trouver des choses telles que des marchés et des débits de boissons au sein d'un camp constitue une distraction et l'ennemi peut profiter derrière ça pour accéder ou pour puiser des informations. L'État doit interdire ces choses, même si cela appartient aux policiers ou aux militaires. Mais nous savons également que souvent dans certains camps, ce sont des gens qui proviennent de l'extérieur, ils sont locataires dans des parcelles se trouvant dans les camps et effectuent ce genre d'activité. Ceux-là peuvent donc aussi constituer un canal susceptible d'apporter des incidents.
En Ituri, plus de 10 000 personnes qui avaient fui il y a environ 6 mois. Les combats entre l'armée et la milice Codeco ont déjà regagné depuis le début de cette semaine le centre commercial de Kobu et de Lipri dans le territoire de Djougou. Selon le chef de secteur de Walendu Djati, une accalmie s'observe depuis quelques mois dans la zone où il y a forte présence des FRDC. Cependant, la plupart de ces retournés n'ont pas d'abri qui ont été saccagés ou incendiés pendant les combats. Les activités économiques et les écoles n'ont pas encore repris, comme nous le dit Isaac Remoyope.
Les centres commerciaux de Kobu, situés à 45 km au nord de Bunia, qui hébergeaient plus de 20 000 personnes, étaient quasi déserts après les opérations militaires vers octobre 2021 pour déloger les miliciens de la Codeco dans la région. Toute la population avait fui dans les localités proches et à Bunia. D'autres ont trouvé refuge dans la brousse où ils avaient construit des maisons de fortune. 6 mois après, le calme est revenu, affirme le chef de secteur de Walendu Djati. Claude Matesso précise que presque la moitié des habitants ont regagné les milieux, mais toutes leurs maisons ont été détruites. Certains ont érigé des tentes, d'autres dorment dans des édifices d'église ou à la Belle Étoile. Même décor dans la localité de Lipri, environ 20 km au nord de Bunia. Les magasins et boutiques et les écoles n'ont pas encore repris. Les habitants s'adonnent uniquement aux travaux des champs. Le marché est très timide, on y trouve des vivres et certains produits de première nécessité. Les chefs de secteur de Djati sollicitent l'intervention du gouvernement et des humanitaires en faveur de ces personnes sinistrées. Claude Matesso.
Maintenant, avec l'armée, tout se passe bien. Chaque personne a regagné sa parcelle, mais à la Belle Étoile. Tout a commencé de zéro. Notre activité même, ça peut être le reste, hein. L'assistance des humanitaires.
Les autorités coutumières et les notables continuent de sensibiliser d'autres habitants retournés dans ces entités. Bunia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Dans le sud Kivu, 24 personnes tuées, 27 maisons attaquées par des bandits armés et 11 cas d'enlèvement en mars dernier. Ces statistiques proviennent du rapport sécuritaire mensuel publié jeudi 7 avril 2022 par la synergie des associations des jeunes pour l'éducation civique électorale et la promotion des droits de l'homme SAGESEC sur Kivu. Cette organisation note cependant que la province du Sud Kivu reste confrontée à une insécurité grandissante et permanente. Plus de détails avec Jean-Baptiste Tonga.
Les enlèvements et les braquages des véhicules ont marqué le mois de mars écoulé. Bien que le nombre de personnes tuées dans le Sud Kivu a baissé par rapport au mois de février où on a enregistré 51 cas, dans ce registre de tueries, c'est le territoire d'Uvira qui est en première position avec 6 personnes tuées, suivi du territoire de Mwenga qui compte 5 assassinés. Autre fait inquiétant, le nombre de braquages de véhicules est également en hausse. En effet, 23 véhicules ont été braqués contre 12 en février, 11 personnes enlevées contre 20 au mois de février. SAGESEC relève par contre une augmentation des maisons attaquées. 27 maisons ont fait l'objet d'attaques des bandits armés contre 23 en février. Enfin, l'organisation SAGESEC a répertorié 3 personnes tuées par vindicte populaire. La SAGESEC estime qu'il est grand temps que les autorités investissent de moyens suffisants dans ce secteur de la sécurité afin que la population retrouve le bien-être et la stabilité. Bukavu, Jean-Baptiste Ntonga, Radio Okapi.
Le président Félix-Antoine Tshisekedi vient de signer ce vendredi 8 avril 2022 le traité de l'adhésion de la RDC à la communauté de l'Afrique de l'Est lors d'un sommet extraordinaire tenu à Nairobi au Kenya. une cérémonie qui s'est déroulée en présence des chefs d'État de cette communauté. D'autres détails avec vous, Pierrot et Lamégie.
C'est lors du sommet du 29 mars dernier que les chefs d'État de la communauté de l'Afrique de l'Est avaient admis officiellement la RDC comme membre à part entière de la communauté, et le président Uhuru Kenyatta avait été désigné pour accueillir la cérémonie des signatures du traité de cette adhésion. D'après les communiqués rendus publics par la communauté, le sommet du 29 mars avait appelé à une intégration économique, politique, sociale et culturelle plus profonde en vue d'améliorer la qualité de vie des gens de la communauté par une compétitivité accrue, une production à valeur ajoutée, des échanges et des investissements pour une reprise économique durable. Un appel relayé par le président ougandais Yoweri Museveni ce vendredi à Nairobi, où il a insisté également sur les valeurs communes à la communauté ainsi que la sécurité. Avec la cérémonie de ce jour, la RDC rejoint dans cette communauté le Burundi, le Kenya, le Rwanda, le Soudan du Sud, la Tanzanie et l'Ouganda. Notons qu'avant l'adhésion de la RDC, la région de l'Afrique de l'Est couvrait une superficie de 1,8 million de kilomètres carrés avec une population de 132 millions d'habitants.
À l'Équateur, le cadre de concertation a dans sa déclaration du 5 avril dénoncé l'anarchie à l'Assemblée provinciale et la mauvaise gouvernance dans la province. Le cadre demande ainsi au chef de l'État de démettre le gouverneur de province Bobo Boloko qui serait auteur de la situation afin de permettre à la province d'avoir la quiétude et de décoller. Voici un extrait de la déclaration du cadre des concertations lu par son président Fabien Mungunza.
Eu égard à tout ce qui précède, le cadre des concertations provinciales de la société civile exige ce qui suit. Relever de ses fonctions le gouverneur de l'Équateur, M. Bobo Boloko Bolumbu, pour donner l'occasion à la province de décoller. Libérer les députés provinciaux, journalistes et activistes arrêtés arbitrairement pour que les Équatoriens sachent réellement qu'ils sont dans un état de droit et garantir la paix sociale avant l'arrivée du chef de l'État dans la province de l'Équateur.
En réaction, le porte-parole du gouvernement provincial qualifie de distraction car sans preuve ni fondement juridique, le porte-parole du gouvernement provincial estime que cette initiative violerait les principes même de l'état des droits que prône le chef de l'État. Papi Ekate.
Ignorer la loi, c'est une infraction parce que si le gouverneur, selon le cadre de concertation, gère mal la province, c'est aux élus du peuple de constater cette mauvaise gouvernance et sanctionner le gouverneur. Au cas contraire, ça c'est une distraction. En cas de crise persistante, le chef de l'État peut prendre une ordonnance délibérée en Conseil de ministres après consultation des deux chambres. Mais pour le cas de la province de l'Équateur, nous observons tous qu'il y a l'harmonie entre les deux institutions. Ça, c'est une distraction pure et simple. Le chef de l'État ne tombera pas dans ses erreurs.
Notons qu'un mouvement de désaveu a été constaté au sein du cadre des concertations provinciales de la société civile de l'Équateur juste au lendemain de cette déclaration. Dossier préparé par Paul-Richard Malengela. Dans la ville de Bandundu, chef-lieu de la province du Kwilu, le prix du sac de ciment a excessivement augmenté ces derniers temps. Sur le marché, le constat est que cela est parti progressivement de 23 000 francs, 25 000, 26 000 et à ce jour, 8 avril, cela se négocie à 30 000 voire 32 000 francs. Situation qui n'arrange pas les gens qui sont en pleine construction des maisons actuellement ou qui effectuent d'autres travaux à base du ciment. Du côté des commerçants, cette hausse des prix du ciment à Bandundu est consécutive à la situation à Kinshasa où ce prix a aussi galopé. Le tout avec Irène Boma.
C'est depuis quelques jours que cette hausse des prix du ciment est observée sur le marché de la ville de Bandundu. Un sac de ciment est passé progressivement de 23 ou 25 000 francs congolais à 30 ou 32 000 francs congolais. Devant une telle situation, certaines personnes qui construisent des maisons pour le moment venues pour acheter le ciment se retrouvent en difficulté. En l'occurrence de M. Amizaki, ne sachant à quel sein se vouer, s'est exprimé en ces mots.
Je suis vraiment surpris. Le prix des ciments a galopé. Tel que je suis venu là pour acheter 30 sacs, mais il n'y a pas possibilité d'avoir 30 sacs. Je suis en train de descendre pour 20 sacs. Où allons-nous avec ces pays et comment allons-nous construire? Cette situation nous met mal dans l'embarras. Nous ne savons que faire.
Une hausse des prix difficile à vivre aussi pour les commerçants, souvent obligés de se justifier devant les clients mécontents.
On vendait d'abord les ciments à 23 000 francs, mais ça devient maintenant à 30 000 francs, voire même 32 000. C'est à partir de Kinshasa on a augmenté les prix et nous aussi, nous avons augmenté les prix pour avoir aussi l'intérêt. Le ciment par rapport au transport est devenu cher.
Il s'est de noter que les commerçants du ciment ainsi que ceux qui achètent demandent aux autorités au niveau national de revoir cet état des choses afin de leur rendre la tâche facile. Irène Boma, Bandunduville, Radio Okapi.
Actualité internationale.
L'Espagne et le Maroc se rapprochent après le revirement de Madrid sur la question du Sahara occidental. Cette normalisation a été rendue possible par la décision de Madrid d'afficher son soutien au plan d'autonomie marocain pour le Sahara occidental. Dans une déclaration conjointe, le souverain chérifien et le chef du gouvernement espagnol ont convenu d'inaugurer une étape inédite dans les relations entre les deux pays. L'un des premiers objectifs de cette nouvelle étape sera le rétablissement de la pleine normalité dans la circulation des biens et des marchandises au poste frontalier de Ceuta et Melilla, explique le premier ministre espagnol Pedro Sanchez. Les avocats de la famille de l'ex-président burkinabé Thomas Sankara, assassiné lors d'un putsch en 1987, ont réclamé jeudi l'extradition de Blaise Compaoré, condamné à perpétuité dans cette affaire et en exil en Côte d'Ivoire depuis 2014. Cette extradition est une lutte de l'État burkinabé du peuple burkinabé, a estimé Maître Prosper Faraman lors d'une conférence de presse. Mercredi, l'ancien président burkinabé Blaise Compaoré a été condamné par contumace à la perpétuité pour son rôle dans l'assassinat de son prédécesseur Thomas Sankara.
L'invité.
Dans la province de la Tchopo, le philosophe Edith Stein, un établissement d'enseignement supérieur privé catholique, organise du 4 au 8 avril des conférences débat dont le thème principal est intitulé « Le vivre ensemble aux prises avec des conflits sociaux, enjeux et perspectives ». Ces activités qui se déroulent dans la grande salle de la paroisse cathédrale Notre-Dame du Très-Saint-Rosaire s'inscrivent dans le cadre de la 21e semaine philosophique de Kisangani. Pour en savoir plus, nous en parlons avec notre invité, professeur Jean-Marie Mwamba, recteur de cette institution. Il s'entretient avec Jacques Moukonkole.
Professeur Jean-Marie Mwamba, recteur du philosophat Edith Stein, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Professeur, vous organisez une série de conférences dans le cadre de la semaine philosophique. Quelle est l'importance de la semaine philosophique?
L'importance de la semaine philosophique, je peux le grouper en deux points. Le premier point d'abord, c'est la visibilité de l'institution. Et le deuxième point, c'est juste une sorte d'apostolat, parce que nous sommes une institution catholique. Alors, le philosophat contribue aussi à l'évangélisation de la population à travers des activités comme la semaine philosophique, avec un thème d'actualité pour informer la population sur une réalité.
Le thème que vous avez choisi pour cette 21e édition, c'est le vivre ensemble aux prises avec les conflits sociaux, enjeux et perspectives. Comment pouvez-vous justifier ce choix?
Oui, aujourd'hui le monde est caractérisé justement par des conflits. Alors, nous comme philosophes, nous avons pensé un peu d'essayer de réfléchir l'origine des conflits et d'où viennent les conflits, les causes et aussi les moyens, comment chercher à résoudre ces conflits, parce que justement quand il y a des conflits comme dans notre pays partout, ça bloque le développement de la population et de la nation.
Professeur Jean-Marie Mwamba, quels sont les objectifs que vous poursuivez?
Les objectifs, c'est que d'abord la population soit informée sur la réalité du conflit qui est inhérent à la nature humaine et justement, après cette prise de conscience, entamer des discussions et des moyens, surtout des dialogues, justement pour arriver à détecter les causes et aussi trouver des pistes de solutions à travers surtout le dialogue.
Donc vous pensez que ces activités peuvent avoir un impact dans la communauté?
Oui, nous pensons que ça peut avoir un impact sur la population en voyant d'abord comment les gens viennent pour participer aux assises et à travers les médias, parce que nous sommes aussi en direct à travers les médias, les gens nous suivent et il y aura des résolutions qui seront données et qui seront publiées dans les annales pour que la population et ceux qui ont les parcelles d'autorité puissent en servir pour essayer de trouver des pistes, des solutions à des conflits qui est partout dans le monde entier.
Professeur, nos communautés vivent dans des conflits récurrents, notamment à l'est du pays où sévissent les conflits armés et ailleurs dans le pays. Aussi, certains conflits d'ordre social et économique, que devons-nous faire pour vivre vraiment en harmonie?
Oui, pour vivre en harmonie, s'il faut, hier nous avons écouté le professeur Alain Koumbatoul, il a passé de la culture de la paix, c'est-à-dire nous devons essayer essayer de voir des moyens pour instaurer cette culture de la paix. Et l'affaire de la guerre chez nous au Congo, à l'Est surtout, et à Ituri, c'est une réalité qui est complexe. Alors il faut sensibiliser toutes les forces vives et surtout arriver à connaître les causes qui sont endogènes, les causes qui sont aussi exogènes, afin de réunir toutes ces populations, les dirigeants, les chefs coutumiers, dans un dialogue reconstructif afin de trouver des pistes de solutions pour l'instauration de la paix dans notre pays en général.
Les conflits datent de longtemps. Professeur Jean-Marie Mwamba, est-il possible de les éradiquer?
Non, les conflits peuvent partir de la nature humaine. C'est difficile d'éradiquer les conflits parce que c'est inhérent à la nature humaine. Mais on peut quand même essayer de vivre, de comment gérer ces conflits et avoir quand même une paix dans la société et promouvoir le développement. Une société sans conflit, c'est de l'utopie.
Alors, quel message avez-vous à adresser à la population?
Oui, nous invitons la population à venir participer. Il y aura aussi les résolutions, que les populations viennent participer, contribuer, donner aussi ce qu'ils pensent des problèmes de vivre ensemble et des conflits. C'est un problème qui nous concerne. Voilà, j'invite toute la population à venir participer massivement pour contribuer, donner leur point de vue sur le problème que nous vivons tous dans notre société.
Professeur Jean-Marie Mwamba, merci.
Merci beaucoup, monsieur le journaliste.
Ça en est ainsi fini avec cette édition du journal Vespéra sur Radio Okapi, préparée par Pierrot Elamegi, Alain Hiron. Billy Ivan Lutumba était à la présentation. Au nom de toute cette équipe, nous vous disons sincèrement merci pour votre attention soutenue.